Le 24 mai, c'est jeudi prochain, l'Église universelle priera pour l'Église qui est en Chine. Avec cette situation particulière d'évêques qui sont nommés par le Parti communiste, et puis d'autres évêques, des évêques ordonnés par Rome. Mais il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a une Église officielle et une Église clandestine. Une Église proche du pouvoir et une Église proche de l'Évangile. Il en va de la nature même de l'Église. C'est son histoire. Dans notre pays, au moment de la Révolution française, il y avait une Église du pouvoir, à la cour du roi, et une Église du peuple, proche des petites gens. Dans l'histoire de France, dans toute l'histoire de l'Église, cette tension est permanente. Pour nous, l'illustration la plus forte, elle est symbolisée par l'opposition entre Jeanne d'Arc et l'évêque Cochon. Mais attention, à l'Église du pouvoir, on ne peut pas lui en vouloir. Elle est la condition d'existence de l'Église de l'Évangile. Au Vendredi Saint, dans le récit de la Passion selon saint Jean, après l'arrestation de Jésus, nous voyons Pierre, l'apôtre Pierre, ainsi qu'un autre disciple, dit l'évangéliste, qui suivent Jésus, qui est conduit au palais du grand prêtre. Et l'évangile dit que cet autre disciple, qui était connu du grand prêtre, entre dans le palais et Pierre reste à la porte. Alors l'autre disciple revient, dit un mot à la servante et fait entrer Pierre. Qui était donc cet autre disciple, connu du grand prêtre, qui frayait avec les autorités? C'était très certainement le disciple que Jésus aimait. Parce que les choses sont toujours plus compliquées qu'il n'y paraît. Et l'Église du pouvoir, c'est aussi celle de l'Évangile. On a pris l'habitude, c'est même devenu un poncif, de reprocher à l'Église son attitude pendant l'occupation en France, de ne pas avoir suffisamment résisté, pas appelé à la rébellion, de ne pas avoir suffisamment dénoncé l'antisémitisme et l'horreur nazie, pas plus, ou Dieu, plutôt pas moins, que les deux grandes forces de libération, les États-Unis et l'Union soviétique. Personne n'a rien dit. Parce qu'une parole publique n'engage pas seulement celui qui la profère, qui la porte, mais tous ceux qui dépendent de lui. Il faut lire le discours de Pierre au jour de la Pentecôte, dans la suite immédiate du récit qu'on a entendu en première lecture. On n'y trouve aucune mise en cause des autorités dans la mort de Jésus. Il s'adresse à la foule, « Hommes d'Israël !» Il leur parle de Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous par ses miracles, ses prodiges, tous ses signes. Cet homme, vous l'avez supprimé, vous. Et un peu plus loin dans le texte, dans le livre des Actes des Apôtres, dans un autre discours, il dit « Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. » Aucune parole publique ne peut faire l'économie d'une certaine réserve à l'égard des autorités en place. Il y a un mois, il y a eu ces frappes françaises en Syrie, totalement contraires au droit international. L'évêque chaldéen d'Alep, Mgr Odo, qui était à Rome, avait exprimé ses plus grands doutes sur l'emploi effectif d'armes chimiques. Et nous en France, qui depuis des mois mobilisons les paroisses sur la situation des chrétiens d'Orient, parce que nous avons tout un réseau, toute une source d'informations sur place, qu'avons-nous dit? Qu'a-t-on entendu de la part de l'Église de France ou de l'œuvre d'Orient? Rien. Nous confondons trop souvent « personne n'a rien dit » et « personne n'a rien fait ». L'Évangile le dit pourtant à un moment, ce n'est pas en élevant la voix, en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on fait la volonté de Dieu. Et nous le savons très bien d'expérience, nous l'avons tous vécu ou nous le vivrons un jour, dans les moments capitaux, cruciaux de notre vie, il y a ceux qui se manifestent et les autres. Et parmi ceux qui se manifestent, ceux qui se sont manifestés, il y a ceux qui écrivent, qui envoient un message, un mail. Et ceux qui sont venus, ceux qui étaient là. Parce qu'à la Pentecôte, avant d'être une parole, l'Esprit Saint est d'abord une présence. C'est d'abord cela la réalité divine, une présence, il se posa sur chacun d'eux. Alors dans ce rapport au pouvoir public, il y a cette phrase déterminante de l'apôtre Pierre justement dans les Actes des Apôtres qui dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Pierre, le premier apôtre, qui est pourtant dans sa lettre le premier à défendre les institutions. Soyez soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur. Soit l'empereur, soit le gouverneur, soit ses délégués. Car la volonté de Dieu, dit-il, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Et le pape François, il y a quelques semaines, a donné une préface à un recueil de textes de Benoît XVI sur le thème de la foi et la politique, un titre extrêmement explicite, « Libérer la liberté ». Et dans cette préface, il donne la clé de notre attitude dans la société. Il faut inscrire l'obéissance de l'homme à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État. Comme limite, pas comme alternative. Nous ne sommes pas placés devant une alternative. Soit nous obéissons à Dieu, soit nous obéissons à l'État. L'obéissance à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État. Et il reprend dans cette préface cette phrase du cardinal Ratzinger des années 70 qui est toujours d'actualité, « Nous devons sans cesse réapprendre qu'en plus de la présence réelle de Jésus dans le temple, dans le sacrement, il existe cette autre présence réelle de Jésus dans les tout-petits, dans les laissés pour compte, dans les délaissés, dans les abandonnés. En eux tous, le Seigneur veut que nous les rencontrions. » D'où la sortie des apôtres au jour de la Pentecôte, bien sûr pour annoncer l'évangile, mais pour rencontrer le monde, pour rencontrer tous les petits. C'est pour les petits, n'en déplaise aux esprits forts, c'est pour les petits qu'existent les institutions. Un des grands mensonges du diable, particulièrement depuis quelques dizaines d'années, c'est de faire croire que les institutions briment la liberté, alors qu'elles ont pour mission, pour fonction de la protéger. L'école, la police, la justice, l'armée, l'Église, mais au premier chef, la famille. Dans cette même préface, le pape François dit que Jean-Paul II avait été appelé avec raison le pape de la famille, qui soulignait si fortement que le futur de l'humanité passe par la famille, le futur de l'humanité. En entendant Pierre au jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là furent frappés au cœur. Et ils dirent, que devons-nous faire? Pierre répondit, convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Détournez-vous de cette génération tortueuse. La facilité, même parfois l'irresponsabilité, c'est de s'en prendre aux autorités, à l'État, d'incriminer les pouvoirs en place. La responsabilité du chrétien, avant de savoir quelles sont les lois qui l'obligent, c'est de savoir quel est l'exemple qu'il veut suivre, qui est réellement son Seigneur. Nous ne nous tromperons pas aujourd'hui de priorité. La priorité pour l'Église aujourd'hui en France, c'est de rétablir le sacrement de la confirmation, le don du Saint-Esprit. 10% des baptisés aujourd'hui sont confirmés. Inutile de chercher à mobiliser contre les lois de bioéthique quand la très grande majorité des baptisés ne font plus la différence entre le bien et le mal. C'est ça aussi le don du Saint-Esprit, le discernement du bien et du mal. L'immense majorité des baptisés, de nos contemporains de toute façon, estiment qu'il suffit qu'il y ait dans un acte une part de bon pour que l'acte ne soit pas mauvais, voire bon lui-même. Alors que c'est rigoureusement le contraire. Il suffit qu'il y ait dans un acte une part conséquente de mauvais pour qu'il faille l'éviter, pour que l'acte soit mauvais. Une paroissienne était venue me voir, elle avait été troublée par les propos d'un de ses amis qui était psychiatre et athée. Ça va parfois ensemble, c'est pas indispensable. Et qui lui avait expliqué que la prière qu'elle vivait était une manipulation psychologique, vous connaissez cette présentation. Et je lui dis, demandez-lui, cet homme si savant, demandez-lui comment il explique les progrès incontestables, magnifiques, que vous faites depuis des mois en patience, en douceur, en bienveillance. Je voyais depuis des mois cette femme se sanctifier à vue d'œil. L'Esprit Saint, c'est une force transformante qui ne transforme pas le monde en général, mais les personnes. Qui ne transforme pas les personnes, qui ne transforme pas à l'insu de notre plein gré, qui ne nous transforme pas de l'extérieur de façon artificielle comme des sportifs qui se doperaient. Il est, dit Jésus, l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. La vérité de l'Église est dans la vie des saints et des saintes de Dieu. Évidemment, nous pouvons être troublés parce que tout ce que nous pouvons voir, tout ce que l'on peut nous rapporter, tout ce que nous pouvons lire ou entendre, des infidélités des membres de l'Église et même de membres de la hiérarchie. Les égarements des chrétiens, parfois des prêtres ou des évêques, ne disent rien d'autre que ce que nous avons tous, savoir du mauvais usage que nous pouvons faire tous de notre liberté. Mais ce n'est pas l'Église qui est en cause, c'est notre docilité à l'Esprit Saint. Ce n'est pas en attaquant les institutions qu'on pourrait libérer l'esprit qui serait enfermé. Quelle idée absurde de vouloir libérer l'esprit alors que c'est l'esprit qui libère. C'est du mauvais, c'est du mensonge que nous devons être délivrés par l'esprit d'amour, par l'esprit de vérité. La Pentecôte aujourd'hui que nous célébrons, c'est l'acte de naissance de l'Église institutionnelle. Elle est le corps du Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est en elle, c'est dans l'Église que se trouve l'accès le plus direct à la grâce. C'est en elle que se trouve la plénitude de l'Esprit Saint. Nous, les petits, nous avons besoin des institutions.